trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est à nos côtés, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Alexandre Taïeb nous accompagne également. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Claire.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes gérant et analyste chez Sycomore. Et Vincent Juvins avec nous également. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Nathalie, si je reprends la séquence macro récente, on est entre la dernière publication ou la publication du dernier rapport sur l'emploi américain relatif au mois d'avril qui a été publié début mai, et dans l'attente de la publication du prochain CPI, l'indice des prix à la consommation. Le rapport sera publié demain, là aussi pour le mois d'avril. Si le marché du travail envoie des signes de plus en plus évidents de détente, que peut-on attendre de l'inflation du mois d'avril aux États-Unis, et qu'est-ce qui compte le plus à ce stade pour Jérôme Powell et la Réserve fédérale américaine dans leur quête de confiance, comme il dit, en vue d'enclencher les premières baisses de taux?
Alors, ce qui compte le plus, c'est probablement l'inflation en ce moment. D'ailleurs, Powell l'a à peu près dit dans le discours qu'il vient de prononcer. Ils ont été, comme tout le monde, dit-il, et c'est vrai, surpris par cette inflation. Ils ne s'attendaient pas à un long fleuve tranquille, mais il a été surpris par ces turbulences. Et il dit, en gros, on attend les chiffres d'inflation, finalement, comme tout le monde. Mais c'est vrai que si on fait exception de ces chiffres d'inflation, le dernier rapport sur l'emploi était plutôt rassurant dans le sens d'un très léger ralentissement. Alors, pas forcément les créations en tant que telles, même si elles ont été moins fortes qu'attendues, on reste sur des chiffres très importants. Mais si on creuse un peu, si on regarde l'évolution du taux de chômage, de ce fameux taux de chômage U6, dont on parle moins en ce moment, mais qui continue à être calculé, donc U6, ça se traduit littéralement par donc, le taux de chômage, les chômeurs, j'allais dire appellation classique, et puis les gens qui sont moins fermement attachés à la population active, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas à temps plein alors qu'ils voudraient, enfin des gens qui ne sont pas pleinement
ce qu'on appelle le halo du chômage,
voilà,
c'est un peu cette idée-là, taux de chômage élargi, etc.
Taux de chômage élargi, exactement. Et ce taux de chômage élargi, il est en train de remonter plus rapidement que le taux de chômage normal, classique. Donc ça, c'est intéressant. La perception qu'ont les ménages du marché de l'emploi également est en train de se détériorer. Là non plus, on n'est pas sur un effondrement, mais les enquêtes montrent que les gens sont moins confiants sur la facilité à trouver un emploi, sous-entendu s'il le perd. Donc voilà, on a ces petits signaux qui sont encore une fois des signaux faibles. Hein. On n'a pas eu
Il n'y a pas de rupture,
il n'y a pas eu de chiffre de création d'emploi négatif pour un mois. Je ne pense pas que quelqu'un s'y attende dans les prochains mois, mais on a bien ce ralentissement. Et pareil, du côté des consommateurs, un peu moins de confiance d'une manière générale. Ça, il faut bien avouer que ça nous ramène au début de la discussion, puisque c'est souvent lié à l'évolution de l'inflation, hein, notamment le prix des carburants aux États-Unis aussi, cet indice du Michigan qu'on a eu vendredi.
Ouais.
C'est très lié au prix des carburants. Donc voilà, on est dans cette... Alors, est-ce que c'est le soft landing ou est-ce que c'est un atterrissage un petit peu plus chaotique? C'est encore trop tôt pour le dire, mais on n'est plus sur cette hypothèse qui était une des hypothèses faite par une partie du marché, d'une surchauffe économique qui resterait là pour l'éternité, en quelque sorte.
Et ce dernier rapport sur l'emploi, vous le dites, alors c'est un signal faible, c'est encore des signaux à confirmer, un point ne fait pas une tendance, etc. Donc on verra ce qui se passe ensuite. Mais si c'est le début d'une vraie détente du marché du travail, est-ce que c'est de nature à quand même accroître la confiance dans l'idée que la désinflation pourra franchir ce fameux dernier kilomètre en passant de 3 à 2, ou pas nécessairement?
Alors, ça devrait l'être. J'allais dire, la Fed, d'il y a quelques années, aurait probablement dit « c'est formidable, on a ces signaux faibles, on peut y aller ». La Fed, qui a vécu cette inflation transitoire, qui s'est un petit peu mal passée, hésite un peu plus. Mais ce qui est important, et là aussi, Jérôme Powell l'a répété aujourd'hui, ce qu'il avait dit lors de sa conférence de presse, en toute hypothèse, le prochain mouvement ne sera pas une hausse des taux. Et c'est vrai, vous le rappeliez, ça a quand même soulagé pas mal le marché.
C'était la conversation d'il y a quelques semaines. Voilà. Effectivement, est-ce qu'il y aurait des baisses de taux? Est-ce que le prochain mouvement ne pourrait pas être même une hausse de taux? Comment vous regardez? Alors, Oui, ces dernières données d'inflation, alors qu'ils sont forcément des données imparfaites, je le rappelle à chaque fois. Je veux dire, on traite des milliards, des montants délirants sur un chiffre comme le PPI, etc. Intéressant de voir quand même, après plusieurs mois de déception sur l'inflation, avec une inflation qui est moins redescendue que ce qu'on imaginait, bon, le chiffre du PPI a plutôt laissé les investisseurs de marbre aujourd'hui, Alexandre.
Oui, il était en ligne avec les attentes, grosso modo. Ce qui est quand même intéressant, alors le même jour que le NFP, on a eu l'emploi des NFP, services.
Oui.
Et la composante prix de l'ISM des services. Et donc, on a eu cette espèce de retour du narratif de stagflation qui est un peu revenu sur le marché, avec la composante prix qui était bien au-dessus des attentes, et la composante service, ISM des services au global, qui était en contraction, qui est passée en territoire en dessous
sous
de 50.
Les 50, ouais.
Voilà. Et donc, ce narratif-là, je pense que c'est à ça que la Fed fait attention aujourd'hui. D'ailleurs, Powell a un peu sorti cette expression « there's no stag, there's no flation ». Il n'y a pas de stag, il n'y a pas de flation, il n'y a pas de flation. Bon, alors, on verra demain pour l'inflation, mais ce qui est sûr, c'est que le marché aujourd'hui, il ne regarde l'inflation qu'à partir du moment où l'économie montre des signes de ralentissement, même s'ils sont légers. Tant que la croissance est en surchauffe, finalement, l'inflation, on s'en moque un peu parce qu'on n'attend pas de la Fed qu'elle baisse les taux. Là, demain, ça va être très regardé parce qu'on a vu ces premiers signes de ralentissement.
Ouais.
Si on a une inflation qui, c'est ce que le marché attend normalement, est en dessous des attentes, ça pourra libérer un sentiment positif. On regardera deux choses en particulier, notamment aux États-Unis. C'est la différence avec le reste du monde, c'est que l'inflation des services ne baisse pas. Là où au UK et en Europe, elle a continué de baisser. Mmh. Et la deuxième, c'est l'immobilier, où là quand même, c'est assez sticky aussi.
Ouais.
Donc ça, il faudra bien regarder ces deux composantes. Mon pari est plutôt qu'on soit en ligne avec les attentes, soit légèrement en dessous.
D'accord. Donc oui, légèrement en dessous potentiellement. On verra effectivement, oui. Sachant que toujours différentes mesures d'inflation, celle que retient la Fed historiquement est plutôt celle de l'indice des prix des dépenses de consommation du consommateur américain, l'indice PCE. Bon, où est-ce qu'on en est sur le chemin de la désinflation aux États-Unis et où est-ce que vous situez, notamment chez JP Morgan Asset Management, Vincent, encore une fois, je le rappelais, il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, le discours c'était oulala, no landing, plus de baisse de taux, voire des hausses de taux. C'est le pari de Larry Summers qui s'exprime régulièrement, bruyamment dans les médias américains, hein, donc c'est une voix qui porte en tout cas son opinion à lui, et puis quand même une forme de réalité qui voudrait que on a quand même un niveau de restriction monétaire qui est correct aujourd'hui, peut-être aux États-Unis.
Oui, alors de notre point de vue, j'avais dit en décembre, avant l'annonce de la Fed, pas de baisse de taux aux États-Unis, avec une croissance au-delà de 3%, une inflation qui baisse et autres, pourquoi parler de baisse de taux? Évidemment, la Fed s'est engagée dès le mois de décembre dans cette voie qui nous a tous surpris. Alors bon, alors pas aller contre la Fed, si la Fed dit 3, ce sera 3. Aujourd'hui, les marchés attendent plutôt 2, je suis plutôt à l'aise avec ça, il en faut plutôt moins que plus. On a finalement cet affrètement économique qui s'opère, il était attendu. On s'attend quand même à toujours plus que 2% de croissance aux États-Unis cette année, ce qui, de notre point de vue, est toujours au-delà du potentiel. Oui. On ne peut pas parler de surchauffe, mais c'est quand même toujours une économie au-delà du potentiel. Je souscris tout à fait à ce qu'a pu évoquer Nathalie sur le marché de l'emploi. Je pense qu'on voit cette dégradation lente s'opérer depuis plusieurs mois. Peut-être que parler de dégradation, le terme est peut-être un petit peu trop négatif. J'aime bien parler de rééquilibrage du rapport de force entre employés et employeurs. Et il est bon, les employés n'ont pas plus tout à dire. Il faut retourner au bureau, on attache à nouveau plus de valeur à son job. On le sent très fort en Europe également, hein, qu'on revient vraiment à quelque chose de puissant. Ce qui donne quelque part la clé par rapport à nos perspectives d'inflation. Demain, on verra, et moi je ne vais pas parier ma même réputation à vos yeux sur ce chiffre. Par contre, fin d'année, on va continuer sur ce train baissier. Et derrière, c'est quand même ça qui est important.
C'est ça qui compte. Hein.
Ça exclut l'idée d'une hausse de taux de la Fed. On est dans cette idée de 3, sans doute plutôt 2 que 3 aujourd'hui, compte tenu de cette résilience. Aujourd'hui, le débat, il se déplace. Hein. C'est où est-ce qu'on s'arrête dans ce cycle au niveau des baisses de taux. Et c'est clair que, bon, on a de la chance, peut-être pour une fois en Europe, c'est que les choses sont plus claires chez nous qu'aux États-Unis et qu'on sent bien que la BCE est là entre 4 et 6 baisses de taux à réaliser dans l'année, année et demie à venir. Et les États-Unis, peut-être autant, mais on devrait rester avec, malgré une estimation théorique du taux neutre similaire de part et d'autre de l'Atlantique, où aller à un peu de choses près, les États-Unis devraient vraisemblablement s'arrêter peut-être plus tôt dans ce processus.
Vous dites, au final, l'écart ou le degré de divergence entre la Fed et la BCE sera peut-être pas aussi large que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques mois, par exemple.
Sur les taux terminaux, si, je le pense. Je pense que la BCE a ici, à court terme, je dirais, plus de raisons aujourd'hui d'être plus franche dans ces baisses de taux. D'autant plus que ces baisses de taux ont été plus négatives pour l'économie, puisqu'on est une économie plus bancarisée, et qu'elle va pouvoir donner, je dirais, de l'allant à l'économie au bon moment. Finalement, aux États-Unis, la Fed pourrait se satisfaire de l'environnement de taux actuel. Les conditions de marché sont beaucoup plus favorables. Si on regarde ces indices, conditions financières, Goldman Sachs et autres, on voit que finalement, pour beaucoup d'agents économiques, même pas peur des hausses de taux. Hein. Donc, à part certains ménages américains qui sont plutôt en difficulté financière, qui commencent à en ressentir les effets notamment et les difficultés à rembourser leurs prêts, pour les entreprises, les conditions de financement sont relativement bonnes. Donc, il n'y a pas d'urgence au niveau de la Fed. Pas d'urgence en Europe non plus, mais les conditions de financement sont relativement moins favorables. Ça nous amène à un sujet qu'on va discuter dans un instant, qui est l'Europe des marchés de capitaux, qui est notamment une des raisons pour lesquelles ces conditions de financement sont moins favorables en Europe. On a évidemment des marchés de capitaux qui ne sont pas aussi pourvoyeurs d'oxygène au monde de l'entreprise qu'ils ne le sont aux États-Unis. Et là, c'est peut-être notre défaut. C'est la raison pour laquelle la BCE, évidemment, a plus intérêt à baisser les taux aujourd'hui.
Oui, le jeu de la politique monétaire en Europe est plus compliqué du fait de cette manque d'unification des marchés de capitaux.
Et donc, pour être clair par votre question, moi, j'essayais pas de noyer le poisson.
Non.
Je pense que la croissance aux États-Unis est résiliente, mais elle se tasse. Sur l'inflation, indépendamment du chiffre demain sur lequel je vais pas faire de pari, je reste convaincu qu'on est dans une courbe descendante et que pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même finalement un message relativement positif dans un monde fait d'incertitudes. On a ces baisses de taux qui arrivent, qui vont quand même être positives pour les classes d'actifs, hein, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles. Et je pense que dans les réseaux bancaires, on s'active pas mal, certainement en Europe, à l'approche de cette baisse de taux qui arrive en Europe. Et là, il va falloir
tout le monde
conseiller
dans
nos clients, les épargnants pour réaliser, convertir l'exercice
en
du cash en investissement.
Ah ouais, c'est ça. Sur l'Europe, comment vous regardez la situation? Si Jérôme Powell plaide la patience et l'idée qu'il faut laisser le temps à la politique monétaire de faire son travail, est-ce qu'on est déjà dans quelque chose d'un peu plus urgent pour vous en Europe? Et quand je dis Europe au sens large, parce qu'on a vu la Riksbank, la Swissbank également, commencer déjà à baisser leurs taux avant même que la BCE ne le fasse le 6 juin prochain, Nathalie.
Alors, dans l'urgence, je ne sais pas. En tout cas, il y a une volonté affichée de baisser les taux, voire de l'avoir déjà fait, pour diverses raisons. Ça peut être l'inflation, ça peut être la devise dans le cas de la Banque nationale suisse, et la Banque centrale européenne qui a envie de sortir finalement de ce dilemme et peut-être de s'affranchir de la Fed. Christine Lagarde a dit on est data dependent, on n'est pas Fed dependent. Et elle a raison, parce que finalement, toutes ces discussions, ce à quoi se raccrochent les banquiers centraux, alors c'est à quelque chose qui est difficile à attraper, c'est le taux neutre. Mais ce qu'on peut dire, sans trop risquer de se tromper, c'est qu'en ce moment, à l'heure actuelle, les politiques monétaires sont restrictives, que ce soit en Europe au sens large ou aux États-Unis. Donc si on a cette hypothèse sur l'inflation, qui est aussi la note d'une inflation qui va ralentir, on ne va pas garder pendant des trimestres, voire des années, des politiques monétaires restrictives. Donc en sortir, c'est ce qu'il faut faire. La vitesse de sortie, on sent bien que ça va être prudent au début, parce que donc cette notion du taux neutre, en nominal, on va dire que c'est 2% dans la zone euro, c'est à peu près ça, 2,5%. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus parce qu'il y a plus de productivité, plus de croissance, etc. Mais donc sortir de ce taux neutre, où on se dit, je suis sûr que le taux neutre, il est là, donc j'y vais le plus vite possible.
Oui.
C'est un pari que personne, à mon avis, n'a envie de faire, d'où ce délai et d'où ces ajustements. Mais encore une fois, sortir de la politique restrictive, là, Powell a lui aussi reconnu que la politique était restrictive. Alors, il a un discours un peu plus ambigu. Est-ce qu'elle est suffisamment restrictive? Est-ce qu'il ne faut pas la laisser agir un petit peu plus longtemps?
Il dit la politique de taux est sans doute restrictive. Il faut voir si l'ensemble de la politique monétaire, je pense qu'il fait référence aussi à la politique de bilan, par exemple, si l'ensemble de la politique monétaire du réglage est suffisamment restrictif aujourd'hui.
Alors la politique de bilan, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Honnêtement, je crois vraiment qu'on est jusqu'à présent dans la formulation qu'avait repris Janet Yellen quand elle était à la tête de la Fed, c'est-à-dire ça doit être très ennuyeux, ça doit se passer en l'arrière-plan.
Regardez la peinture séchée sur un mur.
Pour le moment, c'est ce qui se passe.
Ouais. C'est vrai. Voilà. Ça ne provoque pas de vagues.
Ça ne provoque pas de vagues. Les banquiers centraux ne veulent pas provoquer de vagues. Ce n'est pas la peine d'en rajouter à cette fébrilité qu'on sent bien. Et donc, vraiment, ce qui compte, c'est la politique de taux, la politique monétaire un peu archaïque, mais qui a fait ses preuves.
Pour être un peu franc dans ma question, Nathalie, à quelles conditions est-ce qu'on peut imaginer que la BCE baisse les taux et en juin et en juillet, ça va être la discussion maintenant. Ouais. Alors je comprends sur le chemin jusqu'au taux neutre qu'on y aille pas à pas, mais est-ce qu'il y a l'idée quand même, ou en tout cas est-ce que ça peut être une conversation de se dire, on envoie un signal assez fort dès le départ, en baissant deux fois consécutivement, sachant que c'est pas 50 points de base de baisse de taux avec un taux de dépôt à 4% qui nous amène au taux neutre, pour dire la chose.
Alors, honnêtement, compte tenu des dernières données sur l'activité dans la zone euro, j'ai pas l'impression que la BCE ait envie de se précipiter. Après, il y a l'équilibre des forces au sein du Conseil. Ce qu'a montré le dernier compte-rendu, c'est que certains membres voulaient baisser la dernière fois. Donc, il y a toujours cette recherche d'un consensus pour pouvoir dire la décision a été prise à l'unanimité. Donc, voilà, l'accord est surjoint très clairement. Juillet, je sais pas. Pas si ça vaudrait le coup de tellement précipiter le mouvement. Mais encore une fois, on a eu le Zuhl, l'indicateur de sentiment en Allemagne, qui était plutôt bon, ça va un peu mieux. Ouais. On a eu plutôt des bonnes surprises sur la croissance, sur les PMI. Donc on n'est pas dans une situation où il y a forcément d'urgence, en tout cas d'urgence apparente.
La croissance de la zone euro cette année peut être plus proche de 1% que de 0,5%.
Entre les deux.
Non mais
entre les deux.
Non mais on a entendu quelques ricanements quand Bercy, qui a été un excellent prévisionniste l'an dernier sur la croissance française, puisque je crois qu'on termine autour de 1, enfin c'était à peu près. Et bon, en réindiquant que ce serait 1% ou 1,1, je sais plus précisément, tout le monde leur est tombé dessus. Bon, on sera peut-être plus proche de 1 que de 0,5 au final.
Le chiffre qu'on affiche, c'est 0,8.
Oui, voilà.
C'est entre les deux.
C'est un 0,75.
C'est un 0,75 arrondi. Donc oui, il y a cette reprise de la croissance dans la zone euro qui va être aidée par le ralentissement de l'inflation, un peu plus de pouvoir d'achat également, et qui va être aidée aussi. Alors là aussi, on est dans quelque chose qui peut vite boucler. Une des raisons de l'amélioration, notamment de l'IFO, alors pas forcément du ZIU, mais c'est implicite, mais de l'IFO, c'est que les chefs d'entreprise, dans le cas de l'IFO, attendent des baisses de taux de la BCE.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc, il y a cet effet confiance également.
Ouais, effectivement. Ça change le régime de marché, ces histoires-là, aujourd'hui. Alexandre, vous le disiez très bien, tant qu'il y a eu de la croissance, le marché, notamment le marché action, c'est pas trop interrogé sur la question de l'inflation, sachant qu'on n'était plus à 10. Voilà, à partir du moment où on est passé de 10 à 5, puis 4, puis 3, tout allait dans le bon sens. Et il y avait en plus de la croissance. S'il y a un peu moins de croissance, par exemple aux États-Unis, est-ce que la perspective de baisse de taux va être, j'allais dire, le catalyseur ou le soutien du marché action? Est-ce que c'est ce qu'on commence déjà un peu à observer dans la manière dont le marché réagit?
Oui, c'est totalement l'équilibre. C'est-à-dire que là, on voit le marché qui, au niveau des États-Unis, à mon sens, est en train de jouer le Fed put, le fameux Fed put qui revient. Puisqu'on voit dans son discours que Jérôme Powell est quand même, on va dire, à aujourd'hui, autant concentré sur la croissance que sur l'inflation, et on espère après-demain plus sur la croissance que sur l'inflation. Donc ça, c'est côté US. Côté Europe, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, je trouve, et Nathalie l'a très bien dit, c'est que les indicateurs d'activité sont quand même légèrement au-dessus des attentes, voire même franchement au-dessus des attentes pour certains, que la croissance pourrait surprendre. Et donc, en fait, ce qu'on a l'impression d'observer, c'est que le marché est en train de jouer un no-landing Europe, en fait. Après le no-landing US d'octobre 2023... là, en Europe, on commence à avoir une espèce de rallye. Ah, mais en fait, il n'y a pas de récession du tout, parce qu'on l'attendait chaque année à la repousser. Et puis, en fait, il n'y a pas de récession du tout. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, le marché peut, entre guillemets, jouer plus librement le BCE put.
Oui.
Sur la Fed, ça pose un petit peu plus de questions. Donc, en Europe, on sent le marché un peu plus libéré. Et donc, il y a un regain après une consolidation qui, finalement, n'en était quasiment pas. Pas une. On a une poursuite de ce rallye parce que la croissance va bien, l'inflation continue de décélérer. Donc on a vraiment les deux pattes en Europe, là où on a peut-être la patte de l'inflation qui pose encore question aux États-Unis. C'est peut-être là la différence.
Et ça veut dire quoi du point de vue de l'investissement et des investisseurs globaux? Ça veut dire qu'il y a un cas européen pour investir qui est peut-être plus favorable aujourd'hui, ou on peut être plus confortable avec le cas d'investissement européen?
Oui, on peut être plus confortable aujourd'hui avec le cas d'investissement européen qui est moins cher, qui montre des signes économiques favorables, que ce soit en macro ou en micro quand on regarde les publications. Alors, de l'autre côté, c'est un rallye, je mets plein de guillemets, que les investisseurs détestent un peu. Hein. Le positionnement des CTA, des Quant, c'est quand même net short encore aujourd'hui. Donc,
sur
l'Europe. Il y a des rachats de short qui sont en train d'être faits, mais on est au début de ce mouvement-là. Finalement, on a le début de quelque chose, il faut que l'Europe prouve pour qu'il y ait vraiment une tendance qui se poursuive.
Bon, comment vous regardez... Alors, cette tendance du début de mois de mai, Vincent, après un mois effectivement où on a connu un petit creux sur les marchés de manière générale en avril, ça repart en mai. Alors ça contredit un petit peu le dicton historique du sell in May and go away et puis on voit quand même que les leaders du mois de mai sont pas forcément les mêmes qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. On voit des actions chinoises alors qui font bien déjà depuis le point bas de janvier, mais là ça se matérialise encore un peu plus, des small caps qui rattrapent.
Oui, je pense que
c'est un peu nouveau dans le paysage.
Ce qu'on vient d'évoquer, sur le point macro, on a finalement un affaiblissement un petit peu des États-Unis qui tombent un peu de leur piédestal et une Europe qu'on redécouvre, en tout cas à mesure, en tout cas qu'on voit ces indicateurs surprendre positivement récemment. Et c'est vrai que quelque part, moi, ça m'a personnellement pris par surprise. Objectivement, je trouve que j'ai pas une vision très positive sur les perspectives macro en Europe pour l'instant et que ça influence également la manière dont on alloue les capitaux. On est neutre, nous, sur l'Europe chez JP Morgan Asset Management pour le signer, ça veut dire qu'on voit plus d'opportunités dans d'autres marchés, et pourtant il faut reconnaître qu'à l'heure de faire déjà les bilans à ce stade-ci de l'année, l'Europe en tout cas dépasse les États-Unis pour une fois, ça fait partie des bons marchés, donc il y a réellement des flux qui reviennent.
Même si on prend la séquence depuis fin octobre de l'année dernière.
Tout à fait, et on voit qu'il y a finalement cet élargissement de la performance hors des États-Unis, Chine en est un, Japon c'est un peu plus hésitant là maintenant, mais l'Europe a certainement été la grande bénéficiaire.
L'euro s'apprécie
l'instant, mais je pense qu'il y a un case qui est en train de qui mérite d'être fait actuellement. Alors je reste inquiet pour un certain nombre d'éléments à venir dans les mois à venir sur le front macroéconomique. Alors certes on a des frémissements positifs, mais enfin bon, il y en a quand même encore pas mal de défis dans pas mal de domaines. Je pense
qu'est-ce qui vous rend prudent encore?
Je reste personnellement relativement inquiet de l'état des finances publiques d'un certain nombre d'États européens qui pourraient en tout cas entraîner tantôt une baisse de rating en France, tantôt une sanction de la Commission pour l'Italie avec une procédure de déficit excessif. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention sur cet aspect-là des choses. Les élections européennes pourraient peut-être un petit peu réveiller l'attention des marchés par rapport au fait que, il faut avancer sur l'Europe des marchés de capitaux, mais que l'Europe parlementaire va peut-être pas dans cette direction-là. Donc, il y a quand même aussi des éléments de ce point de vue-là qui méritent notre attention. Mais au-delà de ça, ne boudons pas notre plaisir, reconnaissons tout de même que, en effet, les salaires croissent plus vite que l'inflation aujourd'hui, que globalement les gens consomment et devraient continuer à le faire, ça va quand même être un moteur économique, que j'ai beau être inquiet sur l'état des finances publiques européennes, je suis bien l'un des seuls, les spreads français et italiens ne montrent finalement aucun stress des marchés sur ce sujet, et que donc on continue finalement à dépenser relativement bien, et que nos entreprises...
Les excédents courants sont revenus, en agrégé, on a retrouvé quand même une zone euro excédentaire.
Voilà.
Bon, après, dans le détail, effectivement...
Nos entreprises vont bénéficier de coûts de financement moins élevés dès le mois de juin, donc plutôt que leurs consoeurs américains. On va probablement avoir un euro qui est un petit peu plus attractif au moment même où l'Organisation internationale du commerce nous dit que le commerce mondial repart, quelque chose qui, objectivement, était un petit peu contre-intuitif aussi. D'ailleurs, dans les exportations chinoises la semaine passée, on a vu que l'Europe et les États-Unis étaient bien représentées. Donc, ça pourrait bénéficier à l'Europe également. Et puis, on voit, lorsqu'on se projette en termes de trajectoire bénéficiaire, même si on a une mauvaise saison de résultats au T1 en Europe...
Pourquoi mauvaise?
Non, on a par rapport aux États-Unis, si je regarde aux indices, c'est quand même pas la même chose. Les perspectives à 12 mois sont relativement favorables, y compris pour les marchés européens.
Ça doit accélérer la croissance bénéficiaire, là, normalement.
Voilà. Si moi, il y a un segment de marché qui en Europe m'intéresse plus que d'autres, il est cher aux investisseurs français, c'est les small caps. Je pense que s'il y a vraiment une part du marché qui mérite peut-être davantage notre intérêt, moi, ce serait certainement celle-là. Tant qu'à jouer l'Europe, autant y aller franco avec.
Intéressant. Voilà. Je regardais alors sur des indices small français. Ça y est, on revient alors sur 4 mois les 4-5 premiers mois de l'année 2024. Après une bonne paire d'années de sous-performance du segment small cap, bien sûr. C'est un champ de ruines, me disent certains small cappeurs qui ont un peu d'expérience. Donc voilà, pour dire d'où on part. Mais on voit le CAC small, ça y est, qui fait jeu égal avec le CAC 40 large cap aujourd'hui. Depuis le début de l'année. Hein.
On a attendu longtemps.
Eh ben oui, non mais c'est une petite hirondelle, on va dire.
Et ce qui est dingue, c'est que d'un point de vue top-down, d'un point de vue macro, ça s'explique vraiment avec deux éléments qui tiennent en une seconde. On a une économie qui tient et on a un espoir très fort et très probable d'une BCE qui baisse les taux.
Ouais.
Voilà, on a ces deux éléments-là, et ça suffit. Alors que les fondamentaux n'étaient pas mauvais, des smalls. Ils étaient même meilleurs que sur certaines larges, parfois. Ouais. Donc, les smalls, dans leur ensemble, ont été... On détruit, c'est un peu fort.
Oui, massacré. Moi, je le dis. Oui.
On trouve quand même des dossiers vraiment peu chers, avec
Et de la qualité. Vous dites la qualité de ces entreprises a pas fondamentalement baissé.
De certaines de ces
entreprises. A pas fondamentalement baissé.
Tout à fait. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Et je pense que c'est plus qu'un énième faux départ ce coup-ci.
Oui. Voilà. Oui, avec la perspective de baisse de taux qui doit se matérialiser effectivement beaucoup. La corrélation est très forte, je crois, entre les performances des small caps et les taux. Enfin, on peut le faire sur du 10 ans américain avec le Russell, etc. Je crois que c'est assez. La corrélation est assez parlante de ce point de vue-là. Nathalie, Vincent évoquait la reprise du commerce mondial. Moi, je regarde la séquence américaine. On est à 6 mois de l'élection. Je vois que Joe Biden marche sur les terres de Donald Trump repartant, j'allais dire, sur la question des tarifs douaniers. Alors, ça concerne à ce jour 18 milliards de dollars d'importations chinoises. Est-ce qu'on est dans, j'allais dire, le registre de l'annonce politique à 6 mois d'une élection majeure aux États-Unis, ou est-ce que déjà la macroéconomiste s'interroge quand même sur les impacts que ce regain de tension commerciale peut avoir?
Alors, ce sont des interrogations qu'on a. Alors, Janet Yellen a qualifié ces hausses de droits de douane de ciblées. Ce qui est vrai, on a une liste très précise de
18 milliards d'importations, je ne dois dire que c'est rien, mais ce n'est pas non plus une masse délirante.
Et donc, son analyse, c'est que... qu'elle attend une réplique des Chinois, mais pas forcément très, très importante. De leur côté, évidemment, les Chinois ont dit que ces mesures affecteront gravement la coopération bilatérale chine-US. Mais ça nous ramène surtout au thème de la politique, et donc peut-être que cette parenthèse enchantée qu'on est en train de vivre, il faut peut-être vite en profiter, parce que les élections américaines se profilent. Honnêtement, j'ai pas l'impression que les marchés vont beaucoup se préoccuper des élections européennes. C'est dommage, mais c'est comme ça. En revanche, le rendez-vous de novembre et même avant, ça peut être une source de perturbation pour les marchés financiers.
Ouais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer de voir Joe Biden reprendre les outils qui ont été utilisés par Donald Trump? Alors c'est très consensuel autour de la Chine, ça marche dans les deux camps, démocrates et républicains, ça coûte pas très cher de taxer les voitures automobiles chinoises qui de toute façon sont pas vendues sur le marché américain, si je caricature,
Alors, pour le coup, c'est vraiment pas aller sur les terres de Donald Trump, c'est se comporter en président des États-Unis, en candidat à la présidentielle, c'est-à-dire on cherche le méchant. Dans les années 90, c'était le Japon. Depuis 10 ou 20 ans, 15 ans, c'est la Chine. Donc ça, c'est pas une surprise, en quelque sorte. Au-delà, moi, un des risques, parce qu'évidemment, on va beaucoup parler de l'hypothèse Trump, alors là non plus, on va pas faire de prévision, surtout pas.
Non.
Mais dans le livre noir de l'hypothèse Trump, il y a l'indépendance de la Fed, par exemple.
Ah oui.
Voilà. Ça, c'est un élément qui pourrait vraiment secouer les marchés financiers, parce que le discours du candidat et de ses conseillers sur ce thème est quand même très particulier.
Radical.
Radical,
oui.
Voilà.
Oui, oui. Ah ouais. Donc, non, effectivement, hein, c'était des informations, je crois, du Wall Street Journal il y a quelques jours, effectivement. Sur le sujet Chine-États-Unis, guerre commerciale, alors hypothèse Trump, mais j'allais dire, la réalité du moment, c'est quand même Joe Biden, et c'est lui qui manie à nouveau le bâton sur, sur des importations chinoises. Et qu'est-ce qu'on peut attendre comme réponse de la part de la Chine au moment où on semble entrevoir quand même une économie chinoise qui sort de l'ornière, ou en tout cas qui sort un peu la tête de l'eau après la dure crise immobilière, toujours en cours d'ailleurs.
J'ai plein de questions en fait.
Allez-y, vous avez une économiste à côté.
Non mais j'ai quand même quelques éléments. À mon sens, la réponse, s'il y a une réponse de la Chine, elle va être très ciblée au même titre que ces tarifs sont très ciblés. Sur certains points, d'ailleurs, on voit bien que c'est une question d'image, hein. Vous avez parlé des véhicules électriques, typiquement, enfin, en nombre de ventes de la Chine vers les États-Unis, les véhicules électriques, c'est rien, hein. Ça se compte en milliers,
quoi. Oui.
C'est vraiment très faible. Ensuite, il y a les produits médicaux, donc là c'est assez étonnant parce que sur cette partie-là, donc, l'autorité médicale des États-Unis avait demandé qu'on enlève ces tarifs-là, parce que c'était justifié pendant la période Covid. Là, ça l'est plus tellement. Bon, apparemment, il les prolonge ou il les intensifie. Donc là, c'est un de mes points d'interrogation. Et le dernier, je ne sais pas du tout pourquoi il fait ça, c'est le triplement des tarifs sur les produits métalliques, sur les métaux.
Ouais, métaux critiques.
Et alors là, étant donné que l'essentiel de la production est quand même concentré en Chine, je veux bien qu'il passe par l'Amérique latine, notamment par le Chili pendant un temps, mais à un moment donné, il va falloir composer avec. Donc, je ne comprends pas bien, en fait, ce mouvement-là.
C'est pas une manière de dire à la Chine, on se débrouillera, mais on fera sans vous, quoi.
Oui.
Non, mais j'en sais rien.
Là encore, ce serait une question d'image, pour la présidentielle.
Ouais.
Donc, en fait, bon, ces tarifs-là, je suis assez d'accord avec Nathalie, ils ne jouent pas tellement sur les terres de Trump, ils jouent le rôle d'un candidat à la présidentielle et qui est déjà en poste.
D'accord. Je ne sais pas quels sont le bilan qu'on a pu faire d'ailleurs des tarifs Trump, de l'ère Trump, mais dans quelle mesure est-ce que ça s'est retourné sur le consommateur américain, Nathalie ? Est-ce que c'est ça la logique des tarifs douaniers dans le monde actuel ? Est-ce que c'est avant tout une taxe sur le consommateur américain in fine ?
Alors, si je me souviens bien, ça avait été plutôt pris par les entreprises à vérifier, mais c'était l'idée générale,
d'accord.
C'était plutôt d'accord. Sur les marges. Un des éléments importants, c'est que quand Trump parlait de Chine et de tarifs douaniers, la bourse baissait. Les bourses chinoises baissaient. Et qu'on va être dans cette même situation, j'en ai pas vraiment l'impression. Il y avait déjà des rumeurs vendredi dernier, etc. Donc ça aussi, est-ce qu'il y a une sorte d'habitude, on se dit ben voilà, on repart pour un tour, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour voir vraiment les éléments. S'il y a des paroles plus dures et des actes plus durs des Chinois, ça pourra peut-être changer la donne de ce point de vue-là, mais là, en l'occurrence, on n'a pas l'impression d'avoir eu aujourd'hui ou même vendredi dernier un point de bascule pour les actions chinoises.
Au contraire, les marchés actions chinois commencent à développer un rallye, alors partant de très bas, c'est des marchés qui ont été divisés par deux ces dernières années, etc. Mais là, on a des indices qui sont en hausse de 20, 25, peut-être 30%, même depuis les points bas de janvier, hein, sur les marchés chinois, Vincent. Avec en plus, ça y est, la relance qui se matérialise. Pékin va commencer à émettre ses obligations relance là, à partir de la fin de semaine. Alors, c'est 140 milliards de dollars, mais ça rajoute quand même quelques dixièmes au moins de points de PIB pour l'économie chinoise cette année.
Oui, plus dans l'idée de Pékin essayer de stabiliser les choses aux alentours de ce 5% plutôt que d'essayer de réellement accélérer la tendance. C'est vrai que j'en parlais avec mes collègues basés à Shanghai hier, on avait notre point hebdomadaire et c'est vrai qu'on est dans cette préparation de l'allocation pour les mois à venir et avec évidemment cette tentation quand on voit ce momentum sur les Chinese equities de remonter, de se demander en effet si c'est...
Est-ce qu'il y a encore du potentiel ?
Potentiel certainement, au vu des valorisations, le potentiel est là. Est-ce que les catalystes seront suffisants que pour réellement pérenniser en tout cas le mouvement qu'on voit actuellement ? Alors on a évoqué un certain nombre d'épées de Damoclès, hein, et clairement ce qui se passe aux États-Unis en fait partie. Alors peut-être, juste pour revenir sur cet aspect commercial, il faut dire que du temps de Trump, il faut rappeler que la Chine était l'exportateur en Chine. Ils ont été rétrogradés, ils sont le 4e ou 5e maintenant, Mexique, Europe et autres sont passés devant, donc l'impact relatif de barrières tarifaires plus important sera peut-être réduit. N'oublions ceci dit pas que les États-Unis ne sont pas le seul à penser à ces barrières tarifaires.
On a manière... Comme vous le disiez, il y a beaucoup de produits chinois qui passent par le Mexique aujourd'hui, par exemple.
Ça aussi, c'est vrai.
Il faut voir l'explosion des exportations chinoises vers le Mexique.
Voilà, l'Europe a accueilli Xi Jinping la semaine dernière, ou en tout cas la France, et qui avait convié Ursula von der Leyen, qui a quand même aussi fait entendre, en tout cas, ses inquiétudes par rapport à l'impact des exportations d'excédents chinois en Europe et de la destruction de nos industries. Il y aura là aussi une réponse, si pas immédiatement, plus tard en 2026, mais on est en train quand même de préparer notre mécanisme de taxation du carbone à la frontière. Et la Chine sera particulièrement visée, enfin, relativement moins que les États-Unis, mais on importe relativement plus de la Chine. Ce sont des points d'attention. Bon, pour en revenir au marché chinois en tant que tel, je pense que le moment, il n'est pas à être surpondéré. Je pense qu'on a toujours ce manque de catalyse pour dire, OK, la Chine volontairement veut emmener ce marché plus haut, mais la Chine est trop bon marché pour l'ignorer. Donc, être neutre, c'est un peu le sens aujourd'hui de l'histoire sur les equities chinoises, qui, encore une fois, sont valorisées à des plus bas depuis 10 ans, toujours. La Chine est, en tout cas, face à de nombreux défis, mais elle est aujourd'hui toujours plus intéressante qu'il y a de ça 10 ans. Alors, il y a certainement un intérêt sur l'obligataire souverain, qui reste une très très bonne diversification en portefeuille. Mais voilà, il y a aujourd'hui pas quelque chose de vraiment crédible, vu de Chine, pour réellement, en tout cas, afficher une volonté d'accélérer la croissance économique plus que ce qu'on le voit actuellement.
Je comprends. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure là sur l'image de l'épargnant français ou européen qui doit se préparer à sortir du cash bien rémunéré aujourd'hui pour rebasculer dans une logique d'investissement de son capital. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous, Vincent ?
Moi, je le dis partout, je me suis étonné de voir que tous les gens adhèrent à cette idée. Entre 3 et 4%, c'est le chiffre magique. Alors, on aime bien tous ce rendement d'entre 3 et 4. Moi, j'ai 3,5 sur mes comptes à terme maintenant, on en parle à tout le monde, mais je crois que c'est la référence. L'épargnant européen, il est en 3 et 4, il est content. En plus, c'est le nirvana. Quoi. Alors, franchement, moi, en tout
cas,
je
ne
sais pas, les yeux dans les yeux, vous dire que le CAC 40 va encore faire 10% sur le reste de l'année.
Non, mais
par contre,
justement,
le cash, il rapportera plus.
Mais qu'est-ce qu'il y a entre le livret A et le CAC 40? Parce que j'imagine que celui qui est en cash.
On vient de discuter ce soir, sauf l'obligataire, mais aujourd'hui, franchement, les equities, les yeux fermés, 4% de dividendes sur les dividendes et rachats d'actions propres sur les actions européennes, et on a plus que sur le cash, et on a ce potentiel
et on dort dessus, terme
et on ferme les yeux parce qu'on aura peut-être des prises de profit cet été, on aura peut-être plein de tribulations qui seront désagréables, mais on a un rendement qui est aujourd'hui plus élevé que sur le cash et pour porter ce risque action sur le moyen long terme. On a ci et là, small cap, peut-être moins de dividendes, plus de potentiel. Bon, on m'a parlé d'obligataires ce soir, mais aujourd'hui, aider au financement des entreprises européennes en rachetant leurs créances, c'est du 6, 6,5, avec de très courtes maturités. Aujourd'hui, les épargnants ont vraiment...
Je comprends. Un vaste choix
important
de support d'investissement.
Et j'ai toujours, on pensera à cette période avec nostalgie. Après ça, on se dira, mais oui. Et c'est toujours aujourd'hui le moment le plus dur pour investir. Mais voilà, les taux monétaires vont baisser, le reste montrera à quel rythme on verra, mais les actifs nous donnent de beaux rendements pour attendre.
Bon, dans ce plaidoyer pour l'investissement, qu'est-ce que vous dites, Alexandre ?
100% d'accord. Investissez. Je suis entièrement d'accord sur les actifs risqués. Effectivement, le spectre sur l'obligataire est aussi très intéressant. Il y a de la dette hybride d'entreprise où on a toujours du rendement sur des qualités de crédit qui sont très élevées, des maturités courtes parce qu'elles sont rappelées quand même assez tôt, ces dettes-là, où on a encore du 6-7% à aller chercher. On a la dette bancaire. Les actions bancaires fonctionnent très très bien, mais sur la dette bancaire, on a aussi, notamment au début du mois de mai, début de rallye ou de regain qui se remet en place. Donc, le choix est très très large, plutôt que d'aller uniquement sur le cash rémunéré, même s'il est bien rémunéré relativement à ce qu'on a pu connaître pendant cette décennie à taux zéro. Il y a d'autres choses à faire.
En tant que macroéconomiste, vous attendez un rebalancement, effectivement, de ce qu'on appelle le cash rémunéré, alors que ce soit sur des livrets, des comptes à terme, etc., vers d'autres supports d'investissement, vers de la consommation aussi, peut-être, en Europe ? Est-ce que c'est possible, Nathalie ?
C'est une très bonne question, parce que les taux d'épargne sont très élevés en Europe. On est toujours champion, enfin, la France...
Allemagne et France,
toujours champion. C'est une question, parce que ce taux d'épargne élevé, dans les dernières enquêtes, les ménages disent, on trouve que c'est un bon moment pour continuer à épargner. C'est normal.
Ça,
on est en politique monétaire restrictive, donc 3-4%, on est content, on épargne. Donc voilà, la question, c'est est-ce que les baisses de taux, précisément, vont déclencher ou des mouvements vers les marchés financiers, ou tout simplement de la consommation, parce que si on épargne, ça peut être pour acheter une maison, faire des gros travaux, et donc le faire avec en complément des taux d'emprunt moins élevés, ça peut être un élément déclencheur et un élément de soutien de la croissance.
Réponse en deuxième partie d'année, après les premières baisses de taux de la BCE, dont la première attendue le 6 juin prochain. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management, Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management, et Alexandre Taïeb, analyste gérant chez Sycomore.